France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Alors eux, ils sont venus, swingants, tip-top, toujours en forme, enfin, pas tous, voilà, certains m'ont dit que c'était des vrais nids à micro, mais on va essayer de s'en sortir, et ce soir, les informés de France Info reçoivent Frédéric Matonti, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes politiste et professeur de sciences politiques à la Sorbonne, également Paul Ackermann, directeur de la rédaction du Huffington Post.
Bonsoir.
Vincent Trémollet du Figaro, bonsoir.
Bonsoir.
Et Sébastien Chenu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller régional des Hauts-de-France du Rassemblement Bleu Marine. Et ce soir, quatre débats tip-top sur l'actualité. On va parler un peu de croissance, d'économie. Marine Le Pen a perdu son carnet de chèques. François Fillon, la clé de son bureau à l'Assemblée. On parlera également de Donald Trump, Benoît Hamon. Et donc, c'est l'heure de notre premier débat. Incroyable comme le métier d'assistant parlementaire est à la mode en ce moment, c'est fou, c'est la profession d'avenir et c'est peut-être ça la solution des politiques pour aller vers le plein emploi en tout cas, que tout le monde soit attaché parlementaire. Nouvelle révélation ce soir du Canard enchaîné concernant l'affaire Pénélope Fillon. Ce soir donc, le Canard explique que la note est encore plus élevée qu'annoncée. Au total, Pénélope Fillon a perçu 900 000 euros comme assistante parlementaire et à la revue des deux mondes, jusqu'à présent c'était 600 000. L'hebdomadaire mentionne aussi une nouvelle somme de 84 000 euros bruts versés à deux de ses enfants, assistants parlementaires au Sénat. Alors après l'audition du couple hier après-midi, la police a procédé à une perquisition à l'Assemblée nationale. Objectif des policiers, trouver enfin les contrats de travail de Pénélope Fillon. Jusqu'où cela emmènera-t-il le champion de la droite? Eh bien, pas très loin finalement, selon Bruno Retailleau, son principal soutien et président du groupe Les Républicains au Sénat. C'est encore et toujours le champion de la droite, Bruno Retailleau.
Nous sommes à près de 80 jours. François Fillon est le champion de la droite et du centre, qui l'a désigné à une écrasante majorité. Je ne vois pas d'autre que lui capable de faire face au chaos international, au chaos européen, au désordre français.
Voilà, Bruno Retailleau, ce matin sur BFM. Alors, Frédéric Matonti, on l'a entendu tout à l'heure dans le journal à 20h, François Fillon se défend en dénonçant une opération de calomnie très professionnelle, alors ça ne sait pas ce que c'est, d'une extrême ampleur sans précédent sous la Ve République.
Alors déjà, il a changé un petit peu d'argument. Au départ, c'était ma femme, elle m'aime, elle travaille pour moi, faut pas la toucher. Là, l'argument, c'est l'argument du complot. Bon, moi, j'ai tendance à penser que ça vient plutôt de chez lui. Bon, ça, c'est la première des choses qu'on peut dire. Après, pour l'instant, de toute façon, on est dans la présomption d'innocence et on n'en sait rien. Mais disons que c'est le nouvel élément de langage qui commence à fleurir. D'ailleurs, si je ne m'abuse, Valérie Pécresse avait dit à peu près la même chose. C'était extraordinaire, l'intervention de Valérie Pécresse. C'est-à-dire qu'on lui disait « Est-ce que vous savez que Pénélope Fillon a travaillé pour François Fillon ?» Elle disait « Non ». Ah mais par ailleurs c'est dégueulasse ce qui est en train de se passer.
Bon,
voilà, donc ça c'est le nouvel élément de langage qui est en train d'apparaître. Je crois qu'il n'existe pas que chez Fillon, il existe aussi au FN si j'ai bien compris.
On va en parler.
Mais bon voilà, ça fait partie des éléments de langage, le complot.
Alors justement Vincent Trémollet, c'est vrai que ça fait ça, on ne sait pas ce que c'est, des calomnies très professionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire dans la bouche de François Fillon?
C'est-à-dire qu'il ajoute à la dramaturgie du moment. C'est vrai qu'on est à 80 jours de l'élection présidentielle et qu'il y a une précision assez importante dans ce que publie Canard. Donc, vous pensez que ça vient de l'interne. On peut penser aussi que ça peut venir des services fiscaux puisqu'il y a des fiches de paye, des choses comme ça.
Ils n'ont pas connaissance des fiches de paye,
on peut imaginer ça. Donc ensuite, la stratégie de Fillon, à mon avis, est la seule qu'il puisse tenir, puisqu'il a fixé lui-même la limite, qui est une limite judiciaire, en disant « si je suis mis en examen, je renoncerai ». Et il ne s'est pas fixé de limite politique. Donc maintenant, le seul jeu politique qu'il peut jouer, c'est de dire que le parti des médias et les juges sont contre lui et veulent l'abattre parce qu'il était le possible vainqueur à l'élection présidentielle, ce qui prend corps du fait de la date dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est unique dans l'histoire de la Ve République, je ne connais pas assez bien mon histoire, mais on va être tous d'accord pour dire qu'on vit un moment exceptionnellement dramaturgique dans une élection présidentielle. Dans les trois précédentes, à deux mois et demi, on n'a pas vu de moment comme celui-ci.
Paul Ackermann, c'est vrai que nouvelle révélation, et on sent quand même la défense de François Fillon qui évolue, mais c'est assez complexe et dur d'assumer là.
Le problème, c'est pas est-ce qu'il y a un complot ou pas, c'est est-ce que c'est vrai ou pas. Finalement, d'où viennent les informations, c'est secondaire par rapport au fond des informations. Est-ce qu'ils ont vraiment travaillé pour mériter ce salaire-là. C'est ça la vraie question. Et je pense qu'en disant j'ai bien le droit d'employer ma femme a bien le droit de travailler, ou d'un autre côté, ces informations proviennent d'un complot, c'est une manière de détourner la question, la vraie question qui est est-ce qu'il y a eu travail pour ces salaires ?
C'est ça
la vraie question.
La vraie question.
Et ça, on sent qu'elle est éludée à chaque intervention, que ce soit de sa part ou de ses porte-parole qui tire un peu à tout va avec des arguments bizarres sur comment il l'appelait, ce qu'il l'appelait son assistante ou pas. Enfin, c'est juste une manière de détourner le tir de la vraie question. En fait.
Sébastien Chenu, vous justement cette histoire, à votre avis aujourd'hui, François Fillon, est-ce qu'il peut tenir?
Écoutez, le véritable problème, c'est celui de l'enrichissement personnel, en réalité. Derrière cette histoire, au-delà du fait d'avoir salarié sa femme, ce qui n'est pas illégal, c'est la question de la rémunération absolument effroyable de cette personne, sans aucune contrepartie. C'est celle de la rémunération d'une mère de famille, qui est l'épouse de François Fillon, qui nous dit qu'elle ne fait pas de politique, et qui, en réalité, visiblement, s'est enrichie, en tout cas, le ménage Fillon s'est enrichi avec de l'argent public. S'il peut tenir, mais écoutez, la réponse, c'est lui qui l'a. Je crois que c'est un... En fait, il y a une méprise sur ce qui a été vendu. François Fillon s'est fait le chantre d'une certaine morale et on est en train de découvrir que c'est un homme qui aime l'argent. On est en train de découvrir que c'est quelqu'un qui a d'autres passions que celles dont il vient nous abreuver en disant aux Français qu'il faut se serrer la ceinture. Lui, visiblement, ne compte pas serrer la ceinture.
Frédéric Matondi, est-ce que c'est une passion pour l'argent ou c'est des réflexes finalement de politique, tout simplement de vieille politique où on dit bon bah voilà, je mets ma famille, je leur donne un.
Je pense que c'est, il y a des choses qui ont changé parce qu'on disait est-ce que c'est un scandale sous la Ve République inédit. Je pense que les lois ont énormément changé, surtout, et d'ailleurs la loi sous laquelle il est en train de tomber, c'est quelque chose qui relève de 2014, donc extrêmement récent, et que d'ailleurs, si je ne m'abuse, il n'avait pas voté.
Ah bien sûr,
oui. Il s'était même battu contre.
Ouais. Donc voilà, donc je pense aussi, c'est ça qui rend le scandale d'autant plus grand, c'est qu'une partie de la moralisation, de la transparence, de la vie publique, c'est quand même mise en place de manière très progressive. Et puis on voit bien que chez les Républicains, il y a aussi les Balkany. Enfin, ils sont perclus de mise en examen. Et ils continuent à être là.
On va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h10, Pierrick Bonneau.
Le candidat de la droite à la présidentielle dénonce une entreprise de calomnie sans précédent sous la Ve République. Mais François Fillon se dit confiant et serein. Dans son édition de demain, Le Canard Enchaîné affirme que Pénélope Fillon n'aurait pas touché 500 000 euros, mais près de deux fois plus en tant que collaboratrice de son mari, de son suppléant et à la revue Des Deux Mondes. 900 000 euros bruts au total. Trois activités pour lesquelles l'épouse de François Fillon est toujours soupçonnée d'emploi fictif. Marine Le Pen, elle, refuse de rembourser près de 300 000 euros au Parlement européen. Cette somme correspond à la rémunération comme assistante parlementaire de sa secrétaire puis chef de cabinet au Front National à Paris pendant des années. Catherine Griset travaillait pour le parti à Paris mais était payée par l'Union européenne. La répression des fraudes épingle une vingtaine de sites de vente de billets d'avion en ligne pour pratiques trompeuses, dont la société Go Voyage. Vous vous en êtes sans doute déjà aperçu si vous achetez vos billets d'avion sur Internet. Le prix affiché au départ augmente quand vous arrivez à l'étape du paiement, des frais pas forcément inclus dans le prix ou une surtaxe sur certaines cartes bancaires. Son pays est l'un des 7 concernés par le décret anti-immigration de Donald Trump. Le Premier ministre irakien critique à son tour le texte qui interdit à ses concitoyens d'entrer sur le sol américain. Selon Haider Al-Abadi, ce décret punit non pas les terroristes, mais ses victimes, ceux qui combattent le terrorisme.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de l'affaire Fillon. Ben oui, comme tous les soirs, il y a des rebondissements sur rebondissements. C'est un vrai tagada, cette affaire. Vincent Trémol, vous vouliez réagir à ce que disait Frédéric Matonti?
Oui, je voulais dire que paradoxalement, si cette affaire est à cette efficacité, c'est peut-être en ça que François Fillon dit que c'est professionnel, c'est qu'elle est très facilement intelligible. Il y a une somme, il y a une pratique qui est une pratique que les gens connaissent, qui est une pratique qui était assez courante à l'Assemblée de travailler avec des gens de sa famille. Et donc, on n'est pas dans des scénarios d'affaires qui sont très compliqués. Quand on évoque Karachi, il faut quand même suivre. Il y a un moment... Et donc, c'est là où il y a un paradoxe, parce que je pense qu'une affaire comme ça, il y a 15 ans, ne pouvait pas faire le scandale qu'il fait maintenant. Là, on se retrouve avec le choc d'une mentalité qu'on va dire qui est devenue pas scandinave, mais qui ressemble à celle de l'Europe du Nord en France, avec une pratique politique qui... que je qualifiais de latine, je ne veux pas dire du mal des latins, j'en suis, mais qui était quand même beaucoup plus souple que maintenant. Et on le voit avec la gêne d'un certain nombre de gens, dès qu'on évoque, et pas seulement au Front National, dès qu'on évoque le problème des attachés parlementaires.
Alors justement, on va en parler de ces attachés parlementaires au Front National, puisque la pendule tourne pour Marine Le Pen. Maintenant, ça sera dans 3h45, normalement, puisqu'il lui reste que ce temps-là pour régler son ardoise de près de 300 000 euros au Parlement européen. C'est vrai que ça fait pas mal. Alors, plus exactement, c'est pas 300 000. En fait, elle devrait régler un petit chèque de 296 497,87 euros, indûment encaissé entre 2010 et 2016 par son assistante Catherine Griset. Alors l'intéressée, en fait, Catherine Griset était officiellement employée par Bruxelles, exerçait en réalité au siège du Front National à Nanterre, sous l'autorité directe de Marine Le Pen, selon l'enquête menée par les inspecteurs de l'Office européen de la lutte antifraude. Et le trésorier du Front National fait un étrange parallèle entre les affaires Fillon et les assistants parlementaires du Front National, Valérand Saint-Just.
L'affaire de M. Fillon, c'est vrai qu'il y a pu y avoir un travail non effectif de Mme Fillon. C'est pas parce que c'est Mme Fillon qu'elle ne travaillait pas. On répand depuis je ne sais pas combien de temps que c'était un travail fictif. Pour le moment, on n'en a vu aucune preuve. M. Fillon, en fait, c'est comme Mme Le Pen. Il est condamné avant, notamment par le monde médiatique, avant d'avoir dit quoi que ce soit. Alors que il est député et qu'il a droit à une protection et une immunité spéciale en tant que député.
Voilà, le trésorier du Front National, Valérand Saint-Just. Alors, Sébastien Stenu, pourquoi finalement Marine Le Pen refuse de payer ?
D'abord, il y a plusieurs choses assez inexactes dans ce que vous avez dit. Catherine Griset était est toujours d'ailleurs la collaboratrice de Marine Le Pen. Je crois que ça fait 25 ans qu'elle est sa collaboratrice. Et évidemment, elle travaillait à Bruxelles. Vous savez qu'au Parlement européen, il y a une session unique. Elle va du 1er janvier au 31 décembre.
Donc l'OLAF s'est trompé.
Seulement l'OLAF s'est trompé, mais l'OLAF fait preuve, est aujourd'hui l'objet d'une plainte de Marine Le Pen. Car l'OLAF est le bras armé du Parlement européen. Ce n'est pas un organisme indépendant, l'OLAF. Ce n'est pas un organisme libre, ce n'est pas une juridiction libre, c'est un organe du Parlement européen qui fait la guerre au Front National depuis le premier jour.
Mais dans quel but?
Dans le but d'affaiblir le Front National et d'affaiblir d'ailleurs tous les députés eurosceptiques.
Vous êtes
puisque
un peu dans le complot, François Fillon.
Non, pas du tout, parce que M. Schulz, le président du Parlement européen socialiste, assume tout ça. Il a dit je ferai la guerre avec tous les moyens dont j'ai à disposition au groupe Europe des Nations et des Libertés. Donc il le fait. Donc les droits de la défense sont particulièrement bafoués. L'OLAF ne respecte rien, n'a pas communiqué d'ailleurs son rapport à Mme Le Pen. Aucune communication des pièces, mais une demande, sous quel titre et quelle autorité, on ne sait pas, de rembourser des sommes.
Sébastien Chudu, vous savez que ce n'est pas la seule affaire du Front National, sur les assistants parlementaires européens.
Il n'y a pas d'enrichissement personnel dans cette affaire-là.
Ah non, mais on ne parle pas.
Sachons-le, faisons bien la différence, parce que vous établissez des parallèles.
C'est Valérand Saint-Just, c'est pas moi.
Mais vous établissez, c'est pas sur ça qu'il établit des parallèles. Il établit des parallèles sur la présomption d'innocence, qui vaut évidemment pour tous ceux et toutes celles qui sont confrontés à ce type d'affaire.
La seule chose, Sébastien Chudu, c'est que là, aujourd'hui, il y a Marine Le Pen qui est sommée de rembourser une somme. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, au Front National, où il y a 3 députés européens qui remboursent actuellement, qui sont prélevés sur leur salaire.
Non, mais Marine Le Pen conteste formellement cela. Sa collaboratrice travaille avec elle du 1er janvier au 31 décembre. Qu'elle soit à Paris, à Strasbourg ou à Bruxelles, elle travaille avec elle. Je crois d'ailleurs que l'ensemble des journalistes ont eu affaire un jour à elle, un jour ou l'autre. Donc, par conséquent, il n'y a pas d'emploi fictif, elle travaille avec elle, il n'y a pas d'enrichissement personnel. Marine Le Pen se retourne contre l'OLAF, qui est un instrument, le bras armé politique du Parlement européen, dans la lutte qu'il mène contre Marine Le Pen.
J'entends bien sortir régulièrement l'argument de l'enrichissement personnel. Je reviens sur ce que je disais avant sur la défense de Fillon qui détourne les... C'est pas la question de l'enrichissement personnel, c'est la question de fonds européens qui servent à financer le Front National, finalement, en heure de travail.
Ah non, parce que Mme Griset a été attachée parlementaire, elle travaille au Parlement européen.
Elle est salariée entièrement pour travailler pour l'Europe et non pour le Front National. Donc elle était censée rester à longueur d'année
Non, ce n'est pas ça. Non, les obligations au Parlement européen ne sont pas exactement celles-ci. Et d'ailleurs, la seule remontrance que fait l'OLAF, c'est que Catherine Griset n'a pas passé assez de temps, sans préciser combien de temps il fallait passer, au Parlement européen. Alors, donc tout ça est assez flou. Et tout ça est assez flou. Et je vous invite d'ailleurs plutôt à regarder les prescriptions de l'OLAF en la matière, qui sont tout de même assez floues, plutôt qu'à délivrer des jugements de valeur immédiatement sur une employée qui faisait son travail en réalité, comme beaucoup d'attachés parlementaires.
Parce qu'une nouvelle fois, ça semble être un réflexe pour le Front National au Parlement européen. On vous dit ça juste
parce
que
nous on est habitués. On est habitués à ce qu'on nous fasse la guerre depuis bien longtemps.
Parce que maintenant il y a le chauffeur de Marine Le Pen également.
Alors vous savez qu'en plus ce sont des histoires assez anciennes, puisque c'était avant 2004. 2004, hein, toutes ces histoires-là. Le chauffeur de Marine Le Pen a travaillé pour elle, a pris des rendez-vous, a fait un certain nombre de travaux.
C'est marrant, on dirait la défense de Pénélope Fillon.
Oui, non, c'est ancien aussi.
C'est que ces gens ont travaillé réellement. Là, il n'y a pas d'emploi fictif, c'est pas de la famille. C'est pas de la famille qui a bossé. Ce sont des gens qui ont travaillé réellement. Et Marine Le Pen dépose une plainte parce que les droits, ces droits ne sont pas respectés face à un organe qui, encore une fois, n'est pas une juridiction. C'est un organe administratif. Donc, il ne respecte aucun droit, droit de la défense, conflit d'intérêts absolu. Quand vous écrivez à l'OLAF, c'est l'Union européenne qui vous répond. Conflit d'intérêts absolu. Alors donc, il est juge et parti.
Pourquoi ?
Il vous rémunère et il vous juge. Attendez, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui est en train de juger François Fillon. C'est pas l'Assemblée nationale qui, par exemple, demande à François Fillon de rembourser quoi que ce soit.
Je défenseur de François Fillon, mais pour l'instant, François Fillon n'a pas été jugé. Il n'a pas été condamné.
Et ce que vous dites,
voilà, ni même mis en examen. Donc et il a demandé à la justice qu'elle aille le plus vite possible pour essayer de se tirer de cette affaire. Donc c'est pas tout à fait comparable non plus.
Non, mais Monsieur Chenu, il noie le poisson là, c'est-à-dire que il noie complètement le poisson, c'est-à-dire que vous êtes parti sur l'OLAF, etc.
C'est vrai, on parle de choses sérieuses.
Moi, ce que je vois quand même, c'est que vous pouvez toujours nous raconter qu'il y a des complots, mais vous êtes le parti qui a le record des mises en examen.
Aucune condamnation, chère madame, le seul parti en France qui n'a pas été condamné. Le Parti Socialiste, l'UMP qui a triché à la présidentielle, qui a dépassé ses comptes de campagne.
Je ne suis pas à l'UMP, chère madame.
Ce que vous dites est une contre-vérité, madame. Vous venez de dire une contre-vérité. Nous n'avons pas été condamnés.
Monsieur Valrand Saint-Just, on parle de mis en examen. Monsieur Valrand Saint-Just, qui vient de s'exprimer, il est mis en examen. Le Front National
est innocent, mais il est mis en examen. Ça fait du bien de l'entendre de temps en temps.
Donc, si vous voulez, c'est quand même extraordinaire.
Nous n'avons jamais été condamnés, chère madame, contrairement à ce que vous avez osé affirmer. Nous n'avons jamais été condamnés sur l'ensemble de ces problèmes financiers, etc. Le Front National n'a jamais été condamné.
Parce que pour l'instant, on est toujours au stade de l'instruction.
Contrairement à tous les autres partis du système que vous défendez et que vous soutenez à longueur d'heure.
Moi, je soutiens un parti du système. C'est extraordinaire, votre
argument. Tous les partis du système.
Quand on commence à vous expliquer, votre trésorier est mis en examen, vos vice-présidents sont mis en examen, le FN est mis en examen, vous me répondez, mais tous les autres sont condamnés, vous ne pouvez pas à la fois faire votre campagne sur nous, on a les mains propres, et avoir les records des mises en examen, ou alors vous êtes obligé de raconter qu'il y a un complot.
On va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h20, Pierrick Bonneau.
La facture s'alourdit dans son édition de demain. Le Canard enchaîné ne parle plus de 500 000 euros, mais de 900 000 euros perçus par Pénélope Fillon, notamment en tant que collaboratrice de son mari. Une enquête pour des soupçons d'emploi fictif est toujours en cours. Autre information du Canard enchaîné ce soir, les enfants de François Fillon auraient bien été rémunérés eux aussi comme assistants parlementaires. Un total de 84 000 euros bruts. Le suppléant de François Fillon, Marc Joulot, qui aurait lui aussi rémunéré Pénélope Fillon, sera entendu demain par les enquêteurs. 4 millions de personnes sont sans abri ou mal logées en France. Le 22e rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre a été publié et il dresse un bilan en demi-teinte de la présidence Hollande. La situation s'est encore aggravée ces 5 dernières années pour les plus démunis. La Fondation appelle les principaux candidats à la présidentielle à un grand oral sur le sujet. Le procès des disparus du Novotel, à peine ouvert, est déjà reporté. 10 Ivoiriens, la plupart des militaires, sont accusés d'enlèvement et d'assassinat de 4 hommes, dont 2 Français en 2011. Abidjan était alors au cœur d'une crise post-électorale. La moitié des accusés étaient absents à l'ouverture du procès. Une grève peu suivie a priori demain à la SNCF. La CGT, premier syndicat, appelle les cheminots à cesser le travail, notamment pour protester contre le gel des salaires. Prévision de trafic normal pour les TGV. 9 TER sur 10 en moyenne. Le préavis de grève dure jusqu'à vendredi 8h. Et puis un résultat de Coupe de France. Lille élimine Nantes 1-0 et se qualifie pour les 8e.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Frédéric Matonti, voilà, politiste et professeur de sciences politiques à la Sorbonne, Paul Ackermann, directeur de la rédaction du Huffington Post, Vincent Trémollet du Figaro et Sébastien Chenu, conseiller régional des Hauts-de-France, Rassemblement Bleu Marine. Une dernière chose concernant Sébastien Chenu, le Front National. Frédéric Matonti en a parlé, il y a d'autres procédures judiciaires en ce moment sur le Front National concernant le financement électoral par rapport au Front National. Est-ce que finalement, vous êtes devenu un parti comme les autres ?
Non, nous ne serons jamais un parti comme les autres puisque nous sommes dans la ligne de mire des autres partis pour être abattus parce que nous sommes hostiles à toutes les politiques qui ont été menées. Donc nous contestons ce système qui lui-même nous renvoie la balle en essayant de nous abattre non pas politiquement mais par des voies diverses qui sont des voies juridiques. Ils ne réussissent pas à empêcher nos succès électoraux. Ils essayent de nous attaquer juridiquement. Tout ça trouvera des fins.
On peut dire que dans l'affaire des micro-partis Jeanne, on peut pas dire que ce soit la faute de l'UMP ou du PS.
Non, mais écoutez, pour l'instant, il n'y a aucune condamnation. L'ensemble des partis du système ont été tous multi-condamnés. Leurs élus ont été multi-condamnés. Certains ont même pris des peines de prison, etc. Ce n'est pas le cas au Front National. Donc évidemment, le jour où ce sera le cas, vous aurez beaucoup d'heures, à mon avis, pour en parler. Ce n'est pas le cas. Je comprends que ce soit ennuyeux, mais aujourd'hui, nos responsables, nos candidats sont des gens innocents.
C'est juste l'argument anti-système qui paraît un peu bizarre aujourd'hui.
C'est comme ne pas aller aux convocations des juges. C'est anti-système.
Effectivement, nous sommes face à un système, face à un mur.
Bien sûr.
C'est voilà,
un
système.
Voilà. On imagine que c'était un jeune de banlieue.
Ça se voit.
Allez, on va parler dans un instant, il nous reste un peu de minutes avant 20h30, de parler un petit peu également de la gauche, hein, puisque cette campagne ISN nous amène à nous poser de drôles de questions. Quand un frondeur se retrouve confronté à d'autres frondeurs, est-ce que ça annule la fronde ? Alors c'est assez étrange, hein, mais Benoît Hamon, qui a très souvent contesté la politique du gouvernement, se retrouve face à une mini-révolte d'élus socialistes, évoquant même leur droit de retrait de la future campagne de Benoît Hamon. Selon eux, ce projet présenté par le candidat n'est pas représentatif de tous les courants présents au sein du parti, à commencer par le revenu universel. Du côté gouvernemental, Marisol Touraine ne soutient pas vraiment. Bernard Cazeneuve l'appelle à défendre le bilan du quinquennat. Et si Hamon comptait sur le soutien du secrétaire d'État chargé du développement et de la francophonie, oui, on peut attendre du soutien de cet homme, eh bien ce n'est pas gagné, Jean-Marie Le Guen.
Soyons pas hypocrites, il n'y aura pas d'alliance entre Mélenchon et Hamon, tout le monde le sait, et sans doute pas avec Jadot. Mais on voit bien, parce qu'on est un peu informé, vous devriez l'être, je pense que vous l'êtes, on voit bien qu'il va y avoir des contacts avec Madame Duflo, avec deux communistes minoritaires, etc., etc. Mais bon, c'est pas ça la campagne présidentielle.
Mais alors faut discuter avec qui ?
Excusez-moi, je suis un citoyen français, et un responsable politique français, j'essaye de prendre en main les grandes questions de ce pays en étant en fidélité aux valeurs de la gauche. Je dis attention, ne nous enfermons pas dans une cabine téléphonique.
Eh oui, Jean-Marie Le Guen, il y a encore les cabines téléphoniques. Voilà, c'est ça qui est formidable. Donc, il était ce matin sur France Info. Vincent Trémollet, c'est difficile le passage de l'opposant, finalement, à la gouvernance d'un parti pour Benoît Hamon ? Aujourd'hui, c'est.
Je pense qu'il sait faire, hein, parce que Benoît Hamon a une image aujourd'hui de gauche presque alternative, mais il a commencé chez Rocard, il a repris les MJS, il connaît bien les arcanes du parti, donc il a une dynamique, il pourra en profiter. Mais là, on parlait des 80 jours, des 100 jours, c'est comme dans la période historique, on ne savait plus si c'était Napoléon ou Louis XVIII. Là, on ne sait pas, à gauche, on ne sait pas qui, entre les deux, va y arriver. Il y en a un qui est à 20, mais Hamon est à 15 dans le sondage que nous avons publié hier. Avec un Jadot à 2, c'est quand même pas loin. Et donc, un des deux s'effondrera, on ne sait pas lequel. Et donc, on va voir un jeu qui existe à gauche pour savoir qui va y aller. Comme il existe, on ne va pas se mentir, un jeu à droite autour des affaires de Fillon, se disant, et s'il y avait une autre solution ?
Paul Ackermann, à votre avis, est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit la réaction de Jean-Marie Le Guen, de beaucoup finalement de ministres, hein, tout simplement vraiment des proches de Manuel Valls, est-ce qu'il peut rassembler Benoît Hamon?
Le problème, c'est de rassembler à la fois à sa droite et à sa gauche. C'est-à-dire que ses premières paroles après sa victoire ont été pour Mélenchon et Jadot, ce qui visiblement a un peu froissé du côté des valsistes. Donc c'est un grand écart, effectivement très difficile, surtout qu'il a besoin de faire un très très grand écart pour avoir la moindre chance de passer le premier tour. Donc ça paraît très difficile.
Oui, Frédéric Matonti, c'est vrai que c'est la question que tout le monde s'est posée dimanche. Hein, c'est vrai, après, avec la défaite de Manuel Valls, d'ailleurs ça pouvait se poser aussi la question dans son sens pour savoir le rassemblement. On sent que c'est quand même compliqué le rassemblement. Jeudi, il va rencontrer François Hollande. Il a vu Bernard Cazeneuve hier qui lui a dit qu'il faut assumer absolument le bilan du quinquennat. C'est bizarre de dire ça à Benoît Hamon, frondeur.
Oui, alors en même temps, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce dit Vincent. C'est-à-dire que c'est un homme d'appareil qui connaît très bien l'appareil, qui connaît très bien les arcanes. Dire il faut qu'il rassemble à gauche et à droite dans le parti, bon, de toute façon, c'est toujours la clé. C'est toujours la clé au Parti Socialiste. Il faut mieux faire la synthèse. Il y a eu des moments plus durs au Parti Socialiste avec beaucoup plus de tensions. Je pense que c'est beaucoup plus difficile dans les années 70 quand il y a d'un côté les super-étatistes type Chevènement et puis de l'autre côté les Rocardiens, justement. C'est vraiment deux mondes différents. Ils arrivent quand même à le faire. Bon, donc ça, je pense que oui, c'est difficile. Oui, c'est pas facile. Mais je pense qu'il pèse infiniment plus que Jean-Marie Le Guen.
Qu'il y a quand même un problème de point de vision médiatique. C'est-à-dire que la représentativité de Jean-Marie Le Guen est à peu près équivalente à celle de Jean-Christophe Lagarde à droite. C'est-à-dire que nous, on s'intéresse pour savoir qui bascule pas, mais l'électorat socialiste est quand même attaché au Parti Socialiste et pensait qu'il était condamné à exploser. Et comme que tout ce qu'on prévoit ne se passe pas, le score d'Hamon lui permet peut-être au moins de le maintenir, voire de le développer.
On va continuer à en parler dans un instant de Benoît Hamon. Ne vous inquiétez pas, Sébastien Chenu, vous allez pouvoir réagir dessus. Vous allez pouvoir réagir également sur Donald Trump. Et oui, puisque son décret anti-immigration fait beaucoup, beaucoup réagir de par le monde. Voilà le menu costaud, la suite en gros, des informés de France Info.
Blindé, tu me réponds ?
Point fort fichet. Ma sœur s'est fait installer une porte blindée après son cambriolage.
Eh bien, du 17 janvier au 4 février, ils offrent la TVA sur toutes les portes fichettes d'appartements et de maisons.
Je fonce !
Point fort fichet, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
Voir conditions en magasin et sur fichet-point-fort.com.
Pour EOVI MCD Mutuel, je ne suis pas une seigneur, je suis Nicole. Moi, à la retraite, je la vois comme une nouvelle vie et c'est le moment idéal pour me mettre à la marche nordique.
C'est pour cela que Nicole a choisi EOVI MCD Santé Vitalité, la complémentaire santé qui lui permet de bénéficier gratuitement et à domicile d'un bilan d'activité physique. Idéal pour rester active et en bonne santé. EOVI MCD Mutuel, se comprendre mutuellement. Et en ce moment, profitez de 2 mois de cotisation offerts. Offre valable pour toute adhésion à un contrat EOVI MCD Santé Vitalité. Voir conditions et limitations en agence ou sur eovi-mcd.fr.
France Info Météo avec Teva, laboratoire de médicaments innovants et 2 services pour aider les patients à mieux contrôler leur santé. À retrouver sur teva-laboratoire.com.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Des pluies sur le nord-ouest, elles s'étendront jusqu'au Pays de la Loire et à la Normandie le matin. L'après-midi, elles seront beaucoup plus éparses. On les retrouvera jusqu'à la côte aquitaine, au centre, au bassin parisien, au Hauts-de-France. Ça s'éclaircira sur la Bretagne. Sur le nord-est, beaucoup de grisailles, du brouillard, un peu de pluie vers les frontières allemandes. Prudence sur les routes. En allant vers le sud, ce sera mieux. On aura de belles éclaircies, sauf du Languedoc-Roussillon à la Provence, où ce sera gris et même pluvieux sur les Cévennes. Côté thermomètre, de la douceur, souvent 3 à 10 degrés le matin, un peu moins dans l'est. L'après-midi, 6 degrés à Strasbourg, 11 degrés à Reims, à Paris, 13 à Dinard et Nevers, 14 du côté de Cognac, Montpellier, 16 degrés à Nice, 17 à Montauban et Ajaccio.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. C'est l'affaire Pénélope Fillon qui n'en finit pas de rebondir. Le Canard Enchaîné publie demain de nouvelles révélations. Sous ce titre en une, l'addition flambe. Information de l'hebdomadaire de plus en plus accablante pour François Fillon et son épouse Mathieu Mondoloni.
Oui, 2 nouvelles révélations dans le Canard Enchaîné. La première concerne directement Pénélope Fillon. Ce ne sont plus 600 000 euros bruts qu'elle aurait touchés comme assistante parlementaire et comme conseillère littéraire pour la Revue des Deux Mondes, mais plus de 900 000 euros bruts. Le journal satirique révèle en effet qu'elle aurait travaillé 7 années de plus que ce qui était dit jusqu'alors au service du député François Fillon d'abord, puis de son suppléant Marc Joulot. Deuxième révélation du Canard, les salaires des enfants du couple Fillon. Le candidat Les Républicains avait déjà reconnu les avoir rémunérés quand il était sénateur de 2005 à 2007, mais pour des missions précises, quand ils étaient avocats, sauf qu'ils n'étaient pas avocats et qu'ils auraient en fait été employés comme assistants parlementaires eux aussi. Marie, la fille aînée, âgée alors de 23 ans, aurait été employée du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2006 et dès le lendemain, le 1er janvier 2007, c'est son frère Charles, 21 ans, qui la relaie À eux deux, ils auraient ainsi perçu, selon le Canard enchaîné, 84 000 euros bruts.
Cette affaire Pénélope Fillon crée un trouble énorme pour les Français. C'est ce qu'affirme ce soir François Bayrou sur TF1, le président du Modem, qui affirme aussi qu'il n'a pas accepté d'accord avec le candidat de la droite à la présidentielle en raison, dit-il, de son programme injuste. Fin de citation. La politique encore est au surlendemain de la désignation de Benoît Hamon. Le PS se déchire. Dans une tribune publiée ce matin, l'aile droite du Parti Socialiste revendique un droit de retrait de la campagne présidentielle. Les signataires, le député Gilles Savary en tête, chef de file du pôle des réformateurs au PS, estiment que les conditions de soutien à Benoît Hamon ne sont pas réunies. Certains de ces signataires soutiennent déjà Emmanuel Macron dans cette course à l'Élysée. Un étudiant en médecine de 17 ans arrêté à la faculté d'Amiens, il avait diffusé sur Facebook un message faisant état de fausses menaces terroristes avec un drapeau de l'organisation État islamique. La crise autour du traité anti-immigration de Donald Trump qui s'envenime, le président américain limoge la ministre par intérim de la justice pour avoir refusé l'application de son décret qui continue de provoquer un tollé mondial. Donald Trump qui va révéler dans les heures qui viennent d'ailleurs le nom du magistrat qu'il entend nommer à la Cour suprême des États-Unis. Et puis une première pour sa 70e édition, le jury du Festival de Cannes sera présidé au printemps par Pedro Almodovar.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés, oula, qu'est-ce que c'est que cette petite voix? Les informés de France Info jusqu'à 21h, c'est l'émotion. Sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Ça reprend en twistant avec l'actualité. Ce soir, les informés de France Info reçoivent Frédéric Matonti, politiste et professeur en sciences politiques à la Sorbonne, Paul Ackermann, directeur de la rédaction du Huffington Post, Vincent Trémollet du Figaro et Sébastien Chenu, conseiller régional des Hauts-de-France, Rassemblement Bleu Marine. Nous étions en train de parler de Benoît Hamon, peut-il ou non réunir. Juste une question avant de Vincent Trémollet. On a vu 17 parlementaires aujourd'hui, d'ailleurs Valsis comme Christophe Caresche aujourd'hui signer une tribune dans Le Monde. Est-ce que finalement, je vais vous le dire comme ça, est-ce qu'on s'attendait pas à davantage de monde?
Si.
Que 17 parlementaires.
Ben, on avait prévu une hémorragie qui pour le moment n'a pas lieu. En fait, il y a deux scénarios qui se dessinent. Et alors, bien malin est celui qui pourrait dire lequel arrivera.
Faites attention.
Mais il y a le scénario d'une bipolarisation de la vie politique autour du Front National et d'Emmanuel Macron qui sortirait des clivages anciens, ou un scénario de restauration du clivage droite-gauche avec un affrontement Fillon-Hamon. Et les deux aujourd'hui sont possibles, et le score d'Hamon a montré, et même la participation du deuxième tour du Parti Socialiste, que les vieux partis que l'on avait condamnés n'étaient pas encore morts. Donc on est devant cette incertitude passionnante, puisqu'on voit une recomposition en marche, mais on ne sait pas si elle viendra après le scrutin ou avant.
Sébastien Chenu.
Oui, moi évidemment je crois à la première version. Oui. Je pense que le clivage droite-gauche n'existe plus vraiment, dans la mesure où il existe deux gauches au Parti Socialiste, comme il existe deux droites au sein des Républicains, des gens qui pensent exactement, diamétralement le contraire. Alors qu'ils puissent s'arranger ensemble pour conquérir le pouvoir et pour exercer des responsabilités, peut-être, puisque de toute façon, ils mènent au bout du compte les mêmes politiques. Je note que Benoît Hamon aura évidemment beaucoup de mal à recevoir le soutien actif d'un certain nombre de membres du Parti Socialiste, tout comme d'ailleurs François Fillon aura lui-même, s'il continue jusqu'au bout, à recevoir le soutien des élus LR. Ce n'est pas les emplois qui vont être fictifs, là c'est les soutiens qui vont être fictifs chez Fillon. Donc voilà, moi je crois beaucoup à une recomposition, plutôt à ce scénario du premier tour à l'autrichienne, où les deux anciens partis de gouvernement, Républicains et Parti Socialiste, eh bien vont au tapis parce que les électeurs et les électrices considèrent que leurs choix ne se font plus sur ces critères droite-gauche, mais plutôt mondialiste ou nation, Europe ou nation, protection ou exposition. Voilà, je pense que le clivage, il est plutôt là.
Rappelons-le, en Autriche, c'était donc écologiste contre extrême droite au second tour. Paul Ackermann, François Hollande devrait recevoir Benoît Hamon jeudi, normalement à 11h. Est-ce que c'est utile ce rendez-vous?
Bah, c'est un peu à l'image de ce paradoxe qu'on a où le en gros le parti au pouvoir est représenté par un frondeur. Donc François Hollande reste le président et socialiste élu et était même jusqu'à il y a peu le candidat désigné de ce parti-là. Donc se rencontrer et se positionner par rapport à ça, à un moment donné, de manière explicite ou pas, ça semble quand même logique. Il est pas, c'est pas comme si François Hollande était d'un parti centriste non représenté. Il y reste socialiste.
Il reste socialiste, justement. On l'a entendu Bernard Cazeneuve demander à Benoît Hamon d'assumer quand même une partie de son quinquennat. Pour vous, Frédéric Matonti, est-ce qu'il peut s'en absoudre, Benoît Hamon?
Non, mais je pense que c'est pas du tout sa stratégie, apparemment, de s'en absoudre. D'ailleurs, bon, il se montre avec Cazeneuve. Enfin, le jeu de la rencontre avec Cazeneuve est très bien mis en scène. Le jeu de la rencontre avec Hollande a l'air d'être assez bien mis en scène. Bon, je pense qu'il le sait, qu'il ne peut pas totalement jouer le jeu de la fronde pure, de même qu'il ne peut pas jouer le jeu de la synthèse pure. Enfin voilà, Valls a joué trop le jeu de la rupture de ce point de vue.
Pour vous là, on a parlé de, vous qui étudiez la politique, on a parlé de recomposition éventuelle de la vie politique. Pour vous, est-ce que ou c'est finalement une simple vie de parti, une mutation d'un parti?
Bon, alors, en général, la question de la recomposition est toujours compliquée parce que ce que vous disiez tout à l'heure sur mondialisation, pas mondialisation, bon, il y a des très vieux systèmes d'explication des partis politiques qui reposent sur une théorie avec 8 clivages. Et donc, quand on fait ça, on obtient exactement ce que vous avez dit.
D'accord.
Bon, voilà. Donc, en réalité, on peut dire aussi qu'il y a une radicalisation de la droite assez banalement. On peut dire que le clivage, enfin, ce qui apparaît autour de l'écologie, c'est sans doute un thème qui est en train de rallier une partie, notamment de la gauche socialiste. Enfin, voilà. Je crois qu'il n'y a pas des choses si neuves qu'on le croit. De toute façon, moi, j'ai aucun problème pour mettre le Front National là où il est et là où il fait semblant de ne pas être, c'est-à-dire à l'extrême droite. Bon, tout ça est assez simple.
Sachant que parfois, c'est l'extrême gauche. On nous dit une fois sur deux que c'est l'extrême droite, une fois sur deux, c'est l'extrême gauche.
Disons que c'est l'extrême droite.
Voilà, on est juste des patriotes.
Il y a une permanence.
Oui, ce qui en soi signe à peu près la position politique.
Oui.
Non, mais il faut pas avoir peur de ses origines. Hein,
voilà. Nous sommes des patriotes et nous l'assumons. Oui, mais moi, mes origines ne sont pas à l'extrême droite. Je ne suis pas un extrémiste. Je suis un patriote authentique et souverainiste. Je l'ai toujours été.
Non, mais comme le Front National est très attaché à l'identité, il ne faut pas renier ses racines.
Oui, mais mon identité, c'est celle que je viens de vous donner.
Et souverainiste, ça peut se traduire dans une langue beaucoup plus simple.
Alors, oui, mais je ne pense pas que Jean-Pierre Chouanon, par exemple, soit d'extrême droite. Il était patriote et souverainiste. Et pourtant, il était de gauche.
Vous voyez,
alors attention, pas au Front National. Vincent Trémollet.
Oui, il y a un élément qui traverse aujourd'hui tous les partis et qui répond un peu à la question de la rencontre avec Hollande, c'est la crise de la représentativité des partis traditionnels.
Oui.
Donc Benoît Hamon a besoin de l'onction de Hollande dans ses manœuvres intérieures, mais pour aller à l'électorat, il en a surtout pas besoin, et il a besoin que, puisque chacun de ses candidats se présente maintenant comme un anti-système.
Oui.
Bon, bien malin, et celui qui parviendra à définir le système,
le problème,
et Hamon le fera, Fillon le fera, Macron le fait, et Le Pen
le fait. Dans le scénario d'un deuxième tour Macron-Le Pen, il y aura quand même un problème derrière avec les législatives, et comment on forme un gouvernement, une majorité avec des deux personnes qui ne font pas partie de deux plus grands partis.
C'est pour ça que tout ça est encore fragile.
Allez, justement, dans un instant, on va parler d'un homme qui a fait fi des partis. Hein, c'est Donald Trump, dans un instant, avec ses nombreux décrets qui font polémique. L'info à 20h40, Pierrick Bonneau.
Le canard enchaîné enfonce le clou. Selon l'hebdomadaire, l'épouse de François Fillon, soupçonnée d'emploi fictif, a touché au total 900 000 euros bruts en tant que collaboratrice de son mari, de son suppléant et également à la revue des Deux Mondes. Mercredi, le canard enchaîné ne parlait que de 500 000 euros. Par ailleurs, le candidat de la droite à la présidentielle aurait rémunéré deux de ses enfants comme assistant parlementaire quand il était sénateur de la Sarthe en 2005 et 2007, montant des salaires perçus 84 000 euros bruts. François Fillon dénonce une opération de calomnie sans précédent sous la 5e République. Au Front National, le trésorier du parti Valéran de Saint-Just dénonce des méthodes dictatoriales. Marine Le Pen doit rembourser d'ici ce soir près de 300 000 euros au Parlement européen pour avoir rémunéré des collaborateurs qui travaillaient en réalité pour le Front National. L'institution strasbourgeoise a envoyé plusieurs lettres de recouvrement à la présidente du FN qui refuse de payer. L'alliance kurdo-arabe qui combat le groupe État islamique en Syrie a reçu des blindés américains. C'est une première. Ce n'est pas l'administration Trump qui en est à l'origine. Il s'agit d'une décision de Barack Obama, selon un responsable militaire américain. Et ce n'est sans doute qu'un début. Donald Trump a promis aux forces qui combattent Daesh plus de soutien que son prédécesseur. Mesdames, chez nous, vous êtes les bienvenus. Le LOSC offre des places gratuites aux femmes samedi prochain pour la réception du club de Lorient. Le club de foot de Lille réagit ainsi à la banderole misogyne qui a fait polémique le week-end dernier au stade de Lyon. Un pictogramme de femme accompagné de la mention cuisine.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous allons partir de l'autre côté de l'Atlantique puisqu'ils s'imaginaient tranquilles hein, sur une plage des Caraïbes en train de boire des cocktails à la paille dans une noix de coco ou en train de finir enfin sa partie de Mario Bros interrompue 8 ans de Maison Blanche. Mais Barack Obama n'a pas pu s'en empêcher. Le décret pris par Donald Trump interdisant pendant 3 mois l'entrée aux États-Unis de ressortissants de 7 pays musulmans a fait sortir l'ex-président américain de sa retraite. Hein. Il apporte son soutien aux manifestants anti-décret et souligne, je cite, son désaccord fondamental avec la notion de discriminer des individus en raison de leur croyance ou de leur religion. Des manifestations s'enchaînent, des entrepreneurs s'inquiètent et une pétition anti-Trump a déjà recueilli 4 millions de signatures. Autant de critiques qui ne semblent pas faire changer d'avis Donald Trump. Hein. Il a limogé sa ministre de la Justice par intérim, qui avait été nommée par Barack Obama, et elle avait ordonné d'ailleurs au procureur de ne pas appliquer le décret anti-immigration, et depuis ça ne décolère pas, comme l'ancien prétendant à la présidence des États-Unis, Bernie Sanders.
Ce que Trump a fait donne des arguments aux djihadistes de toute la planète qui ont dit aux gens que les États-Unis les détestent. Nous ne haïssons pas le peuple musulman et nous voulons qu'ils le sachent.
Le sénateur du Vermont, donc Bernie Sanders, Paul Ackerman. Alors, ce qui est assez, ce qu'on remarque, c'est quand même que Donald Trump avait parlé lors de son discours d'investiture de réunir le pays, finalement. Et là, on voit, il avait prononcé à un moment aussi cette phrase, justement.
Oui, c'était au moment de sa victoire, de la victoire. Mais
de réunir, voilà. Et là, on voit que ça creuse, en fait.
Oui, c'était une ligne qui avait duré 24 heures. Ouais, c'était après, pendant toute la période de président élu, il était retourné au Donald Trump en campagne. Et là, on voit que depuis qu'il est en place, c'est tous les jours. D'ailleurs, enfin, je crois que le but n'est pas tellement de changer les États-Unis que de prouver qu'il va remplir d'une manière ou d'une autre toutes ses promesses. Donc, une après l'autre, lui, quelle que soit leur énormité, il signe un décret pour qui parfois, comme là, c'est pour 3 mois. Donc, c'est un peu aussi de l'esbroufe, mais c'est il est toujours, c'est une sorte de campagne en fait. C'est le moi président par décret interposé. Mmh. Donc, son discours d'investiture, par contre, était très violent et a été, je crois, assez globalement analysé là-dessous. Et c'est dans cette droite ligne. Quoi.
Une chose pour Karine, au Huffington Post, bien sûr, vous travaillez beaucoup sur Donald Trump. Il y a juste une question que tout le monde se pose, c'est le choix de ces 7 pays, justement, hein, que sont l'Irak, l'Iran, Yémen, Libye, Syrie, Soudan, Somalie, donc interdit de venir, et donc notamment pour la Syrie, c'est encore plus dur, bien sûr. Pourquoi ces 7 pays? Parce que il n'y a aucun de ces ressortissants.
Ça, c'est le grand mystère. Donc, il y a eu des théories et des cartes qui sont que Bloomberg a sorti où ça correspondait parfaitement au pays où il n'avait pas des business au Moyen-Orient. Par contre, ça correspond à aucune autre logique, c'est-à-dire que pour ce qui est des pays qui financent le terrorisme d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas l'Arabie Saoudite dans la liste.
Pas l'Égypte non plus.
Pas l'Égypte, il n'y a pas l'Afghanistan, donc ça tient pas cette logique-là. Si la liste, donc, ce qu'on voit aussi, c'est la seule cohérence qu'il peut y avoir, qu'il n'y a pas de business dans les pays qui vont très mal, et il y a beaucoup de réfugiés qui viennent des pays qui vont très mal. Donc c'est le semblant de logique qui semble avoir derrière cette liste, mais clairement, de la désigner comme une liste, il dément que c'est une liste basée sur la religion, ça, on a quand même du mal à le croire.
Ouais, c'est ça. Alors, Vincent Trémollet, on a vu que le monde entier, aujourd'hui, enfin, étant des mois, on se pose des questions par rapport à ça. Même en France, on peut être touché hein, par des gens qui ont la double nationalité. Est-ce qu'ils vont pouvoir même se déplacer aux États-Unis? On a l'impression que Donald Trump, alors on ne sait pas si, en effet, c'est pour respecter ses promesses de campagne ou parce que c'est toujours de la com, même jusque dans les décrets.
Moi, je pense qu'il est premier degré, comme le dit un professeur à Assas, là, Monsieur Bana. Il est premier degré. Il fait ce qu'il dit. Donc, ouais. Il l'avait dit pendant le discours d'investiture, comme vous le disiez très bien, en disant les gens qui avaient le pouvoir vous ont oublié et moi, je vais vous rendre le pouvoir que vous avez supprimé. Et donc, il applique ses décrets. Alors, avec une pratique politique dont on peut douter de l'efficacité, parce que la politique, un pays ne se gère pas comme une entreprise de travaux publics. Mais je pense que les réactions créées sont faites pour consolider derrière lui les gens qui sont élus, qui l'ont élu, et pour leur montrer que lui, quand il arrive, il dit pas, l'exercice du pouvoir exige de ne pas faire ce qu'on avait fait, de gagner du temps, de faire que simplement 50% du programme. Donc il y a la tentative d'une invention d'une nouvelle forme de pratique du pouvoir. Après, on peut rester quand même très très sceptique, justement, oui, quand on voit notamment sur la durée de vie, et sur l'efficacité de ce décret. Vous vous rappelez l'Arabie Saoudite, mais les seuls terroristes qui ont frappé New York le 11 septembre étaient en grande partie saoudiens.
Ah oui, tous les terroristes qui ont frappé les États-Unis au cours des trois dernières années, aucun ne venait de ces pays-là. Donc c'était, il y avait beaucoup l'Afghanistan, d'autres pays, mais jamais les pays de cette liste-là. Donc il n'y a aucune logique là-derrière.
Alors Sébastien Chenu, il y a Cyprien qui est maire Front National donc de Hénin-Beaumont, qui a déclaré que le Front National pourrait envisager des restrictions à l'immigration telles que celles imposées, je cite, par Donald Trump aux États-Unis en cas de victoire de Marine Le Pen à la présidentielle.
Non, vous n'allez pas jusqu'au bout. C'est en cas d'une information, d'une arrivée imminente de terroristes sur le territoire. Nous pourrions évidemment imaginer un tel dispositif en cas d'une information de nos services sur l'arrivée.
Parce que c'est pour ça qu'il l'a contredit.
Vous le dis.
Vous êtes un petit peu. C'est comme la com, vous savez.
Mais notre position est claire. Nous ne souhaitons pas ce type de dispositif pour la France, sauf si effectivement nos services nous informaient qu'il y avait une arrivée imminente de terroristes. Effectivement, nous empêcherions les ressortissants d'un pays d'arriver sur notre territoire s'il y avait un danger quelconque.
C'est ça veut dire l'idée qu'on se fait de terroristes, protéger. Par exemple,
c'est assez facile. Si nos services nous indiquaient qu'il y avait des terroristes qui devaient arriver de façon imminente sur notre territoire pour poser des bombes, on fera en sorte qu'ils n'arrivent pas. Pour cela, il faut des frontières. Pour cela, il faut un service de renseignement équipé. Pour cela, nous empêcherions effectivement l'arrivée de ces gens-là. C'est à peu près l'idée qu'on se fait de la protection de notre territoire. Sur Trump,
comme beaucoup de gens.
Moi, je note que Trump ne vise pas d'ailleurs contrairement à
je filtre.
Voilà, oui, ça sert à savoir qui rentre.
Si on ferme toutes les frontières,
encore faut-il en avoir. Encore faut-il en avoir. Pour la fermer, il faut qu'elle existe.
Vous couperiez effectivement tous les Belges en France.
En France, nous n'avons pas de frontières, vous le savez bien.
Quelle nationalité les Belges?
Donc, par conséquent, nous sommes pour la restauration des frontières.
Les Français,
Je suis allé jusqu'au bout de mon raisonnement.
Justement, Donald Trump, on sait que Marine Le Pen en est totalement fan. Le problème, c'est qu'elle n'a pas été reçue à la Trump Tower. Bon, malheureusement,
elle n'était pas prévue qu'elle soit reçue par Donald Trump à la Trump Tower.
C'était juste pour boire un petit café?
Non, elle a été invitée à dîner par Guido Lombardi. Elle a tenu d'ailleurs à honorer cette invitation à dîner, et elle a lancé d'ailleurs quelques ponts avec un certain nombre de personnalités qui peuvent elles-mêmes être très proches de Donald Trump. Vous lui poserez la question. Je ne suis pas persuadé que ça regarde tout le monde aujourd'hui. Mais simplement, effectivement, Trump applique ses promesses. Moi, ces promesses, je n'ai pas voté pour Trump. Les Américains l'ont choisi. Il applique ses promesses. On a l'impression que c'est un gros mot en France d'avoir un président qui applique ses promesses.
Il les applique pour trois semaines.
D'ailleurs, je signale qu'Obama avait pris des dispositions pour ces pays-là également.
Donc, il appliquait ses promesses, c'est ça ?
De restriction d'arrivée des citoyens de ces pays-là. Et si c'était un décret anti-musulman, comme cela a été expliqué, eh bien, il l'aurait fait pour l'ensemble des pays musulmans. C'est pas un décret anti-musulman. Alors, quelle est la logique derrière? Moi aussi, je peux rester interrogatif. Quelle est la logique derrière? En tous les cas, c'est pas un décret anti-musulman. C'est pour 90 jours. Je pense qu'il est en train de tester plutôt sa politique et ses promesses.
D'accord. Mais si l'Irak, par exemple, la réciprocité, on voit qu'il y a des hommes d'affaires américains qui ne pourront plus rien faire. Donc, c'est un peu compliqué. Frédéric Matonti.
Il y a surtout qu'il y a des juges qui disent ce décret est parfaitement illégal. Donc, effectivement, on peut toujours dire c'est formidable de faire de la politique comme ça. C'est-à-dire, on prend une décision. Il y a un juge le lendemain qui dit c'est illégal, donc après on peut évidemment changer le droit. Là on passe dans une autre logique et celle de la dictature, mais ça devient un petit peu compliqué quand même. Donc je pense que c'est effectivement une manière de tester, de dire à son électorat qu'il est bien comme il est. Et puis il y a aussi quelque chose d'assez profondément irrationnel là-dedans. Enfin, ça va avec ses tweets assez extraordinaires qui balancent 2-3 fois par nuit. Enfin bon, il y a quand même quelque chose là de très troublant. Et ce qu'on a vu le soir du décret, c'est-à-dire tous ces gens qui convergeaient dans les aéroports et imaginaient un ancien président intervenir, ça laisse aussi l'idée de ce que peuvent devenir très très vite les États-Unis avec Trump.
On va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h50, Pierrick Bonneau.
Se présentera-t-il à la présidentielle comme un recours? François Bayrou laisse planer le doute ce soir chez nos confrères de TF1 sur son éventuelle candidature. Le président du Modem revient sur l'affaire Fillon qui crée un trouble selon lui parmi les Français, avant d'ajouter mystérieux qu'il fera tout pour que la France s'en sorte. L'affaire Fillon et le candidat de la droite à la présidentielle qui dénonce une entreprise de calomnie sans précédent sous la Ve République. François Fillon se dit confiant et serein dans l'attente de la clôture de l'enquête. Dans son édition de demain, Le Canard Enchaîné affirme que Pénélope Fillon n'aurait pas touché 500 000 euros, mais près de deux fois plus, notamment en tant que collaboratrice de son mari. 900 000 euros bruts au total, activité pour lesquelles l'épouse de François Fillon est toujours soupçonnée d'emploi fictif. Ce matin, des policiers enquêtant sur la réalité de ces emploi exercé par l'épouse de François Fillon sont allés chercher des documents à l'Assemblée nationale au moment où les députés Les Républicains faisaient bloc derrière leur candidat, lui réaffirmant leur soutien. Demain, le suppléant de François Fillon, Marc Joulot, qui aurait lui aussi rémunéré Pénélope Fillon, sera entendu à son tour. En République démocratique du Congo, 3 soldats capturés et torturés à mort par un groupe rebelle. Les victimes étaient à bord d'un hélicoptère de l'armée qui s'est écrasé la semaine dernière dans l'est du pays. Et puis deux résultats de Coupe de France ce soir, 16e de finale. Lille élimine Nantes 1-0 et se qualifie pour les 8e, tout comme Bordeaux qui bat Dijon 2-1. Lorient frôle l'élimination mais vient à bout de Châteauroux 3-2.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, il nous reste encore quelques minutes pour parler de ce qui se passe aux États-Unis actuellement. Dans la nuit, en France, hein, nous aurons le nom de ce juge que doit nommer Donald Trump à la Cour suprême. Aux États-Unis, c'est excessivement important. Mais juste une chose, Paula Carman, qui sont ces gens qui manifestent aujourd'hui contre Donald Trump? Est-ce que finalement, on dit souvent, ce sont voilà les grandes villes, New York, il y a des gens d'Hollywood, de la Silicon Valley. Est-ce que il y a pas deux Amériques là qui se dessinent et finalement à la base qui n'est pas pour Donald Trump?
Non, il y a clairement, un mouvement quand même assez marqué. Les manifestations, notamment la Women's March, les différentes Women's March, ont été historiques dans leur mobilisation. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ils sont pas très représentés politiquement. C'est-à-dire que le Parti démocrate, on le voit pas beaucoup. Ouais. Il ne sait pas comment se positionner par rapport à ça. Et il est très critiqué par ses manifestants pour ça, parce que il est pas dans une opposition claire et forte comme peuvent le demander. Et on a vu Bernie Sanders. Sanders, lui, c'est quand
habitué,
même... Oui, mais c'est le côté très très à gauche du Parti démocrate, mais les autres, on les entend pas beaucoup, et à un moment donné, il faudra se demander quand même où est l'opposition politique, surtout quand toutes ces lois et ces décrets devront passer sur un débat parlementaire.
Sébastien, est-ce que finalement, aujourd'hui, Donald Trump, est-ce qu'il vous inspire, d'ailleurs, au Front National? Est-ce que Donald Trump peut être quelqu'un qui vous inspire par rapport à sa démarche, par rapport à sa manière de gouverner? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous...
Voilà. Et par rapport à sa manière de gouverner, non, je crois que chacun est ni par rapport aux propositions qu'il fait. Il fait des propositions pour le peuple américain qui ne sont pas celles que nous faisons pour les Français. Simplement, je crois que c'est plutôt nous qui l'avons inspiré sur un certain nombre de choses. Il reparle de nations, de respect des nations, et dans la relation qu'il souhaite instaurer avec les puissances étrangères, il ne souhaite pas instaurer une relation avec l'Europe en tant que telle, mais avec les nations telles qu'elles sont, avec la France en particulier. Donc ça, c'est intéressant d'avoir un président qui considère qu'il a en face de lui des partenaires qui sont des nations et pas des membres d'une union croupion avec lesquels...
Vous pensez l'avoir inspiré là-dessus?
Je pense que sur, en tous les cas, le discours des nations, nous pouvons effectivement avoir un point de convergence, disons.
D'accord, mais c'est tout, hein, parce qu'on pensait, parce que je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que Marine Le Pen en parle beaucoup, comme elle parle du Brexit, et donc c'est pour ça qu'on pensait que ça pouvait être un inspirateur.
On peut vous donner d'autres exemples, si vous voulez parler de la méthode, effectivement, peut-être que Donald Trump, effectivement, il est au service des Américains avant d'être au service des lobbies. Nous, en France, nous souhaitons être au service des Français avant d'être au service également des lobbies ou d'autres pouvoirs que défendent des Macron ou des Fillon, par exemple.
D'accord. Il y a une différence quand même, parce que souvent on dit le Front National correspond à ce que serait Donald Trump. Et quand même, Donald Trump était le patron du Parti républicain. On l'oublie souvent, comme c'est une personnalité extravagante. Il était à la tête d'un parti dit de gouvernement. Il n'était pas le leader d'un parti populiste apparu à droite des deux autres partis. Et je pense que c'est quand même une différence à rappeler.
Candidat, il n'était pas le patron. Il était le candidat.
Oui, mais c'est comme si Marine Le Pen était la candidate des Républicains.
Non, mais secoué les Républicains américains. Il n'était pas le candidat souhaité.
Oui, mais
d'ailleurs,
il est passé par un parti du système selon vos catégories.
Voilà, tout en rappelant qu'il avait été démocrate avant aussi. Voilà, donc il a un peu tout fait Donald Trump. Frédéric Matonti, pour vous.
Sur les lobbies, c'est à mourir de rire. C'est-à-dire, quand on voit son équipe qui est en gros le grand patronat américain qui dirige, vous entendre parler des lobbies, c'est juste, c'est de la propagande, ce que vous dites, quoi.
C'est vrai que c'est assez étonnant.
Et par ailleurs, il faut quand même aussi rappeler quelque chose d'important, c'est-à-dire quand on regarde l'électorat de Trump, on oublie que dès qu'on passe les 40 000 $ par an de revenus, c'est là qu'on vote Trump. Donc en plus, l'histoire de « je suis le candidat des petits » et tout ça, alors c'est vrai que dans les swing states, bien sûr qu'il a pris des voix, mais majoritairement, c'est d'abord l'élu de ceux qui gagnent plus de 40 000 $ par an.
Il est l'élu du peuple américain, ça vous fait peut-être mal, mais c'est ainsi.
Non, mais il est l'élu d'un système que vous devez détester parce que c'est un système fédéraliste. Parce que si en réalité on l'avait compté un homme, une voix...
Les États-Unis ne se sont pas construits de la même façon.
l'avait compté un homme une voix, il ne serait pas élu.
Mais il y a un élément dans les manifestations dont vous parliez, c'est que, si j'en crois le livre de Laure Mandeville, notre correspondante là-bas, ces manifestations et ce que représentent ces gens ont participé à l'élection de Donald Trump, puisqu'il s'est construit comme le candidat contre le politiquement correct, notamment qui se développait dans les universités. Et donc, moi, je ne crois pas que ces manifestations, même si elles sont importantes, sont pour lui, pour l'instant, une menace politique tant qu'il n'y a pas de
représentation. Mais par contre, c'est de nouveau un mouvement qui...
Mais ça prolonge la campagne, au fait, et ça va faire un mandat assez curieux et assez fragile, puisque avec une Amérique divisée.
Paul Ackerman.
Un mandat, je ne sais pas, on est dans les premières semaines, on est effectivement dans une gouvernance par décret qui peut pas durer. Et comme vous disiez, il est l'élu du Parti républicain et il va devoir compter sur les républicains, les élus républicains du Parlement, pour faire passer des choses un peu plus avec plus d'ampleur et qu'il ne peut pas faire passer par décret. Donc ça va poser problème.
En tout cas, c'est à suivre pour Donald Trump et les informés de France Info. Ça doit se terminer. Merci beaucoup à Frédéric Matonti d'être passé. Merci à Sébastien Chenu, Paul Ackerman du Huffington Post, bien sûr, à retrouver tout le temps sur Internet. Et la une du Figaro demain.
Demain, dans le Figaro, il y a du Fillon, de la croissance molle et surtout une très belle interview de Fabrice Lucchini autour de sa nouvelle lecture qui parle d'argent.